nzamba
nzambira samirana
Le journal avec
Bertrand Gendakouridjo.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'information. Vous êtes branchés sur la radio Inzam Ratea Kawe. Voici les grands titres de l'actualité de ce mardi 8 septembre 2026. Au sommaire tout d'abord, des Burundais qui vivent de petits métiers au Kenya disent être aujourd'hui dans le désarroi et l'incertitude. Ils affirment être victimes de persécutions de la part de certains citoyens kenyans. Ces Burundais craignent de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins et demandent à être traités avec dignité et respect. Ensuite, au moins 17 personnes ont perdu la vie au cours du mois d'août, selon le dernier rapport de la CAD Burundi sur les violations des droits humains. L'organisation fait également état de deux commerçants enlevés et portés disparus, indique que Gitega est la province la plus touchée. Enfin, le niveau d'alphabétisation reste faible au Burundi, malgré les efforts déployés dans ce domaine. C'est le constat des experts en éducation à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée ce 8 septembre. Ils déplorent notamment les difficultés de lecture chez certains élèves ayant terminé l'école primaire et les lacunes du programme national d'alphabétisation. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous pour le développement de ces titres et bien d'autres actualités.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Bonsoir encore une fois et merci d'être avec nous dans ce journal. Les Burundais qui exercent de petits métiers au Kenya disent vivre aujourd'hui dans le désarroi et l'incertitude en raison des persécutions dont ils sont victimes de la part de certains citoyens kenyans. Ces derniers les contraignent parfois par la force à retourner dans leur pays d'origine. Face à cette situation, ces Burundais craignent désormais de mourir de faim et demandent à être traités avec dignité et respect. Le point avec Jean-Georges Kirugola.
Beaucoup de Burundais qui exercent de petits métiers disent être dans une situation difficile. Ils sont souvent malmenés, persécutés, battus dans les rues et sommés de retourner dans leur pays. Aujourd'hui, ils craignent de mourir de faim parce que leurs biens sont souvent volés par les Kenyans. Ils demandent que leurs droits soient respectés. Beaucoup de chauffeurs de véhicules tuk-tuk sont souvent malmenés et persécutés. Hier, par exemple, il y a un qui s'est arrêté pour prendre des clients. Et ce sont ses clients qui l'ont tabassé sérieusement en lui demandant de rentrer dans son pays. Ils lui ont volé de l'argent, des téléphones, et ils ont vandalisé son véhicule tuk-tuk. D'autres Burundais sont persécutés dans leur maison, ils sont aussi battus et torturés. Nous demandons que ces mauvais comportements des Kenyans cessent. Nous sommes persécutés injustement. Nous demandons que notre dignité soit respectée. Si ça continue comme ça, on va mourir de faim et on va nous faire sortir des maisons que nous louons. Nous demandons que les droits de l'homme soient respectés. Le gouvernement kényan, par le biais de son porte-parole Charles Owino, a condamné fermement les violences perpétrées contre les étrangers et particulièrement contre les Burundais résidant au Kenya. Il avertit que les auteurs de ces actes seront punis par la loi. Le gouvernement kényan précise que sa démarche s'inscrit dans la logique d'aider les étrangers à travailler dans une situation irrégulière afin qu'ils puissent bénéficier des droits que la loi du pays leur accorde.
Merci à toi Jean-Georges Kibogola. Après le cas d'un Burundais parti en Russie récemment rapporté par la radio Inzamarate à Kawe, d'autres Burundais continuent d'être identifiés par les personnes arrêtées en Ukraine. Asmani Daisenga fait partie de ceux qui ont été envoyés en Russie dans l'espoir d'y trouver un emploi avant de se retrouver impliqués dans la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Pierre Garungu fait le point sur cette situation.
Asmani Ndayisenga est originaire de la zone Buyenzi. Dans la vie civile, il travaillait comme soudeur. Il raconte avoir d'abord rejoint l'Ouganda, où son frère parti avant lui en Russie l'a mis en garde et lui a conseillé de rebrousser chemin après avoir découvert que le travail pour lequel ils avaient été recrutés était en réalité un engagement militaire.
Je suis né le 23 septembre 1999.
J'ai quitté le Burundi pour me rendre à Kampala, en Ouganda, au mois de mai de cette année. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était entre le 23 et le 28 mai. À mon arrivée à Kampala, mon frère qui était parti en Russie avant moi m'a expliqué qu'une fois sur place, il avait découvert qu'on l'avait enrôlé dans l'armée. J'ai été surpris et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Il m'a répondu « Je ne sais pas, ils ont déjà pris tous mes documents, y compris mon passeport. » Deux jours plus tard, nous avons pris l'avion pour la Russie. À ce moment-là, je n'avais plus aucun moyen de faire marche arrière. À notre arrivée à Moscou, nous étions 18 Burundais. Des personnes sont venues nous accueillir et nous ont conduits en véhicule jusqu'à un camp. Sur place, ils ont récupéré nos passeports et en ont fait des photocopies. Ils nous ont ensuite remis des documents que nous avons été contraints de signer. Nous sommes arrivés vers 7 heures. Dès notre arrivée, ils nous ont conduits dans un lieu où ils nous ont appris à manier les armes et à tirer. Après cette première séance de formation, nous avons pu nous reposer. La formation a duré environ 2 semaines. Nous avons ensuite été transférés dans un autre camp où nous avons reçu une nouvelle formation pendant 2 semaines. Puis, nous avons encore été déplacés vers un autre camp. Nous ne savions même pas où nous étions, ni dans quel camp nous étions conduits. À chaque fois, la formation au maniement des armes durait environ 2 semaines. Ce processus s'est poursuivi jusqu'au moment où nous avons finalement été envoyés dans une zone où se déroulaient de véritables combats. Asmani appelle les autres Burundais à la prudence face aux offres d'emploi qui leur sont proposées à l'étranger. Il affirme qu'ils peuvent être trompés et livrés à des personnes qui tirent profit de leur situation. Il demande également aux autorités ukrainiennes de lui permettre de rentrer au Burundi afin de pouvoir y chercher un moyen de subvenir à ses besoins.
Inzamba.
Et dans la suite de l'édition d'aujourd'hui, au moins 17 personnes ont perdu la vie au cours du mois d'août dernier, dont 9 ont été assassinées, tandis que 7 corps sans vie ont été retrouvés. Ces chiffres figurent dans le dernier rapport de la CAD Burundi sur les violations des droits humains. Le rapport fait également état de 2 commerçants enlevés et portés disparus. Selon Judith Basutama, chargée de la communication au sein de la CAD Burundi, la province de Gitega arrive en tête des provinces les plus touchées par les violations des droits humains durant ce mois d'août. Les présumés auteurs de ces violations sont notamment des policiers, des agents du Service national de renseignement ainsi que des Imbonerakure. À Katbourg, ils déplorent par ailleurs l'absence de poursuites systématiques contre les auteurs présumés, une situation qui, selon cette organisation, contribue à la persistance de ces violations. Écoutons ici Judith Basutama, chargée de la communication au sein de la Katbourg.
Au total, à Katbourg a documenté 15 atteintes au droit à la vie et ont causé la mort de 17 personnes. 9 ont été assassinés, 7 corps ont été découverts sans vie et une autre personne est décédée en détention dans les locaux du Service national de renseignement après avoir été victime d'une disparition forcée. 4 femmes ont également été grièvement blessées dans 2 attaques à la grenade. La CAD Burundi a par ailleurs documenté un cas de double enlèvement de disparition forcée de 2 commerçants dont les familles restent sans nouvelles. Au cours du mois d'août, la majorité des faits se concentrent dans la province de Gitega, qui enregistre à elle seule plus de la moitié des cas d'atteinte au droit à la vie, documentés au cours du mois avec 8 cas. Elle est suivie par Butanyirira avec 4 cas et Bujumbura avec 3 cas. Le rapport relève également que les agents de la police du Service national de renseignement ainsi que les jeunes Imbonerakure sont impliqués dans plus de 26% des violations documentées. Les 73% restants sont imputables soit à des personnes non identifiées, soit à la population, notamment dans les cas de lynchage. Le rapport d'Akad Burundi montre aussi le peu de réponses des institutions, car dans près de la moitié des cas, il n'y a pas eu d'enquête officielle ou interpellation des présumés auteurs. Les arrestations faites sont plutôt intervenues sous la pression de la population ou alors dans des cas de flagrant délit. Comme dans les rapports précédents, la CAD Burundi note la persistance des enterrements précipités des corps, parfois sans constat légal ni examen médico-légal. Une pratique qui compromet la recherche de la vérité et peut faire obstacle à l'établissement des responsabilités. Face à cette situation, la CAD Burundi demande au ministre de la Justice d'ordonner des enquêtes indépendantes sur tous les cas documentés et de garantir des procès équitables, y compris lorsque les agents de l'État sont mis en cause. Il demande également au procureur général de la République de veiller à ce qu'un corps découvert dans des circonstances suspectes ne soit inhumé avant la réalisation des constatations nécessaires et lorsque cela s'impose d'une autopsie médico-légale.
Dernier dossier de cette édition, le niveau d'alphabétisation reste très faible au Burundi. C'est le constat amer fait par Eulalie Nivizi, ancienne présidente de l'association Bafashebige, et déplore que même certains élèves ayant terminé l'école primaire éprouvent encore des difficultés à lire correctement, sans parler des adultes ayant suivi le programme national d'alphabétisation qu'elle juge très lacunaire. Parmi les principales causes de cette situation, Eulalie Nivizi évoque notamment le manque de moyens financiers et l'insuffisance d'enseignants qualifiés. Elle s'exprime à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée ce 8 septembre. Je vous prie de la suivre.
Le nombre de femmes, de jeunes et d'adultes qui ne savent pas lire ni écrire, ou tout simplement qui ne savent pas mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant la formation d'alphabétisation, quand on analyse le nombre d'enfants scolarisés qui arrivent en sixième année primaire sans pouvoir écrire correctement le kirundi, sans pouvoir bien compter, mais aussi sans pouvoir appliquer les connaissances dans la lecture, par exemple dans le journal, dans la lecture d'une recette de cuisine, tout simplement dans une lecture d'un document de la vie courante, ou tout simplement appliquer cela dans les activités de la vie courante, on se rend compte que le niveau d'alphabétisation est très faible. Cette faiblesse du niveau d'alphabétisation est causée par un problème d'abord d'accès à l'alphabétisation. Les élèves qui vont à l'école primaire, ils accèdent à des salles de classe, mais une fois là, la qualité des enseignements, les infrastructures qui sont vétustes, la qualité des enseignants qui ne sont pas suffisamment qualifiés, le matériel, les conditions d'apprentissage qui sont dures, et peut-être un programme qui est surchargé, qui ne répond pas aux besoins, et qui ne permettent pas aux enfants d'avoir des compétences à la lecture, à l'écriture, au comptage, mais aussi aux questions de la vie courante, ils sont majoritaires. La deuxième chose, c'est que les adultes qui vont dans les centres d'alphabétisation doivent emprunter une longue distance. C'est-à-dire que ces centres ne sont pas du tout accessibles. Les distances sont très longues. Quand la distance vers les centres d'alphabétisation est longue, la personne qui y va doit mettre sur la balance le temps qu'il consacre à cette activité par rapport au temps qu'il devrait concentrer aux activités de la vie quotidienne. Mais aussi, une fois alphabétisé, on se rend compte que le temps que vous avez consacré et la qualité des compétences que vous avez ne correspondent pas.
La ligne Nivizi propose également quelques pistes de solutions pour relever ce défi.
Il y a d'abord la question d'accès à l'alphabétisation qui suppose des ressources pour construire les centres d'alphabétisation, des ressources nécessaires pour mettre en place des centres d'alphabétisation et avec des infrastructures de qualité, avec un matériel d'animation de qualité, mais aussi avec des animateurs de qualité. Et cela suppose aussi une mise en place d'un programme post-alphabétisation qui attire les apprenants. Car si vous formez à lire et à écrire, alors que les personnes formées n'ont pas d'opportunité pour appliquer, alors que ces apprentissages ne serviront pas à la vie quotidienne, là, c'est une perte de temps. Donc, il faut mettre en place un programme attrayant pendant la formation, que ce soit un programme lié à la vie courante, mais aussi un programme d'encadrement post-alphabétisation, que ce soit au niveau social, au niveau économique, au niveau santé, mais aussi au niveau des droits humains, afin que les personnes alphabétisées puissent solliciter les compétences acquises pour gérer les questions de la vie courante. L'autre recommandation pour rehausser le niveau, c'est de faire face aux questions de la pauvreté des ménages. Et la plupart de familles considèrent que l'alphabétisation est bonne tant qu'elle résout les problèmes. Mais tant que l'alphabétisation, les compétences acquises ne permettent pas de faire face aux problèmes, mais aussi sollicitent l'objet des ménages en matière de transport, mais aussi en matière de suspension temporaire des activités. Actuellement, beaucoup de ménages ont des difficultés à faire face aux travaux domestiques. Alors, s'il faut abandonner les travaux domestiques qui génèrent des ressources, qui génèrent des revenus et se sacrifier se consacrer à l'alphabétisation, les personnes alphabétisées en cours d'alphabétisation considèrent que c'est une perte.
Et voilà, c'est sur ces mots de la ligne Ibizi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à mes collègues pour leur précieuse contribution à la production de ce journal. Prenez soin de vous et à très bientôt.